Orient Hebdo, Éric Bataillon.
La situation de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan pose-t-elle la question de l'avenir des sociétés chrétiennes au Moyen-Orient, ou est-elle d'abord et avant tout une question de nationalisme pour les uns, de survie sociale et culturelle pour les autres? Le groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens d'Orient, les minorités du Moyen-Orient et les Kurdes proposait mardi un intéressant colloque sur ce thème au Sénat. Ovyanes Gevorkian, représentant du Haut-Karabakh, était l'un des intervenants. Il fait le point à notre micro. Liban, le chaos, la chaîne publique France 5 diffuse demain soir le documentaire d'Alfred de Montesquieu, qui était notre invité dimanche dernier. Enfin, la revue de presse, nous serons à Jérusalem avec Michel Paul et au Caire avec Alexandre Bouchanti. En novembre 2020 s'achevait une guerre de 44 jours opposant l'armée régulière d'Azerbaïdjan, appuyée par des mercenaires envoyés par la Turquie, aux forces de sécurité arméniennes de l'enclave du Haut-Karabakh, essentiellement des civils. À l'issue des combats, la Russie intervenait pour séparer les belligérants et sécuriser la zone en envoyant des soldats de la paix. Un an après, le représentant du Haut-Karabakh en France, Ovyanes Gevorkian, fait le point sur la situation politique, économique et sociale dans l'enclave arménienne et les perspectives de résolution du conflit. Propos tenus mardi soir dans l'enceinte du Sénat français à l'invitation de son président Gérard Larcher.
Le changement le plus notable dans le Haut-Karabakh depuis l'an dernier, depuis la guerre qui a été déclenchée par l'Azerbaïdjan contre notre petite république autodéterminée, et le déploiement des forces russes de maintien de la paix qui rassurent la population artsakhiote, karabakhiote, et qui rassurait, revient vivre dans son pays qu'il avait quitté pendant la guerre. À peu près 70-72% de la population avait trouvé le refuge dans la République d'Arménie voisine. Donc cette population étant revenue, les autorités du Haut-Karabakh aujourd'hui font leur possible pour assurer une vie normale à cette population, c'est-à-dire en construisant des logements, reconstruisant les infrastructures touchées pendant la guerre. Et les difficultés sont assez importantes aujourd'hui parce que les destructions ont été importantes pendant la guerre. Des grandes parties du territoire du Haut-Karabakh se trouvent désormais sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, qui nécessite la reconstruction de nouvelles routes, la reconstruction des voies de communication. L'eau potable est devenue un véritable problème parce que c'est plusieurs sources des villages et des villes du Karabakh se trouvent dans les zones occupées par l'Azerbaïdjan et qui ne sont plus accessibles pour la population. Voilà la situation à la fois politique, mais aussi sociale difficile. Et aujourd'hui, la République d'Arménie, il faut dire, soutient intégralement les autorités d'Artsakh pour surmonter cette crise humanitaire.
Est-ce que la région est toujours sous la pression de l'Azerbaïdjan ?
Oui, la politique de terreur, en revanche, n'a pas cessé de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, quasi quotidiennement, essaye de maintenir la population arménienne du Karabakh dans une situation de terreur, quasiment, en ciblant, en tuant un paysan qui laboure son champ, un technicien qui essaye de réparer un aqueduc pour alimenter la capitale du Haut-Karabakh. Tout ça pour que la population arménienne, lassée de cette situation, finit par abandonner ce territoire et partir définitivement. Et donc, c'est ce que nous appelons une politique d'épuration ethnique.
Justement, est-ce qu'il y a un phénomène d'exode du Haut-Karabakh vers l'Arménie qui s'ajouterait d'ailleurs au problème des réfugiés en interne ?
Non. Pendant la guerre, ça a été le cas. Une fois encore, à peu près 70% de la population, elle n'est pas grande, mais 70% de la population, dans le contexte de la terreur que semait l'Azerbaïdjan en ciblant, en bombardant massivement les écoles, les hôpitaux, les centres culturels de notre pays, cette population avait été obligée de quitter le Haut-Karabakh pour trouver refuge. Une fois la guerre terminée, et les troupes russes de maintien de la paix déployées, ce phénomène rassurant est là, et c'est plutôt l'inverse. Ceux qui avaient trouvé refuge et qui ont toujours leur maison, leur logement au Karabakh intact ou quasi intact, reviennent pour y revivre. Et seuls ceux qui n'ont plus de logement, et cela de fait que leur logement se trouve sur des territoires, dans les zones qui aujourd'hui sont contrôlées par l'Azerbaïdjan, et donc le retour est impossible dans leur ancienne habitation, seuls ceux-ci restent encore en Arménie en attendant que les logements soient construits dans la zone libre du Haut-Karabakh pour que eux aussi puissent revenir et s'installer dans notre pays.
Où en est-on sur la question des prisonniers de guerre ?
Hélas, un an après le cessez-le-feu, signé le 9 novembre 2020, des prisonniers de guerre arméniens sont encore détenus dans les prisons azerbaïdjanaises, alors que le cessez-le-feu, une des dispositions de cessez-le-feu prévoyait le retour et la libération de tous les prisonniers de guerre et des otages. Les Azerbaïdjanais libèrent ces prisonniers de guerre goutte par goutte, en fait, une personne, deux personnes, et jusqu'à aujourd'hui, nous pensons qu'il y a environ 120 prisonniers de guerre dans les prisons azerbaïdjanaises. Les Azerbaïdjanais en reconnaissent seulement 40.
Y a-t-il encore un lien géographique important entre le Haut-Karabakh et l'Arménie ?
Ce lien géographique s'appelle le corridor de Latchin, qui est large de 5 km, qui relie en effet le Haut-Karabakh à l'Arménie et donc au monde extérieur. C'est le seul lien qui aujourd'hui fait en sorte que le Karabakh ne soit pas asphyxié intégralement et qui reste sous la protection ou sous le contrôle des forces russes de maintien de la paix.
Est-ce que ça suffit pour assurer une viabilité économique de l'Artsakh ?
C'est très peu, c'est très peu. Naturellement, nous aurions aimé que d'autres voies de communication qui existent pourtant puissent être ouvertes entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, parce que vous le savez certainement, ces voies de communication avec l'Arménie sont aussi des voies de sécurité, des assurances de sécurité pour la population du Haut-Karabakh. Large de 5 km, psychologiquement, c'est extrêmement pesant sur la population du Karabakh, parce que attaquer, prendre et couper tout simplement le Haut-Karabakh du reste du monde est chose quasiment extrêmement facile aujourd'hui si les forces d'interposition n'étaient pas là.
Les territoires conquis par l'Azerbaïdjan sont-ils soumis à un régime particulier ?
Ces territoires ne sont pas soumis à un régime particulier. Ces territoires restent encore vides, évidemment vidés de leur population arménienne. Et les Azerbaïdjanais ne s'installent pas pour l'instant sur ces territoires. Il y a seulement les militaires, les troupes azerbaïdjanaises qui sont présentes. Et les rares vidéos que nous avons pu voir sur des réseaux sociaux, d'ailleurs filmées par les Azerbaïdjanais eux-mêmes, montrent parfois la destruction, la profanation des églises, des monastères, du patrimoine culturel arménien, la destruction des cimetières arméniens, ce qui nous laisse supposer que probablement cette même politique de réécrire l'histoire, ou en tout cas de créer un environnement hostile à tout retour des Arméniens est en marche dans ces territoires. Pourquoi ? Parce que quand vous détruisez les cimetières, quand vous détruisez le patrimoine culturel d'un peuple, quand vous détruisez leur logement, vous essayez de cette manière créer un environnement où si jamais les Arméniens avaient envie de retourner, ne puissent pas trouver leur environnement arménien et donc trouver quelque chose qui leur serait étranger. C'est la raison pour laquelle nous affirmons qu'il y a bel et bien une politique de nettoyage et d'épuration ethnique sur ces territoires.
Donc la question de l'indépendance d'une république de l'Artsakh se pose-t-elle aujourd'hui ?
Oui, cette question se pose parce que l'indépendance de la république d'Artsakh a été proclamée, même il y a 30 ans, comme une réponse à une politique discriminatoire, à une politique de l'épuration ethnique des Arméniens par l'Azerbaïdjan. Cette question se pose évidemment avec toute sa force, parce que les Arméniens du Haut-Karabakh sont encore et toujours menacés, si ce n'est plus, par l'Azerbaïdjan et quotidiennement. Cette reconnaissance n'est pas juste un acte politique, c'est un acte dans notre esprit de sauvetage de ce qui reste des Arméniens en Artsakh.
Monsieur Yohannes Gevorkian, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Ovanès Gavorkian, représentant du Haut-Karabakh en France.
Orient Hebdo sur RFI.
Corruption, guerre, démission de l'État, confessionnalisme, anarchie, ce sont les cinq plaies du Liban, selon le film d'Alfred de Montesquieu que la chaîne de télévision France 5 diffuse demain soir à 20h55 dans l'émission Le Monde en Face, musique de Gabriel Yared. La dernière partie du film fait étape à Tripoli. L'auteur nous dit pourquoi.
Alors, notre documentaire, c'est important de le souligner, c'est un road trip. C'est-à-dire que le Liban a beau être finalement pas très grand, c'est grand comme le département français de la Gironde, quand on y pense, c'est pas non plus énorme, c'est quand même le concentré de tous les enjeux du Moyen-Orient. Et c'est là que se croisent tous les défis, tous les conflits et toutes les communautés. Et du coup, notre film est un road trip. Hein. On va de Beyrouth au sud, du sud à la plaine de la Beka, de la Beka à la montagne, et on termine à Tripoli pour rencontrer le nord du pays, c'est-à-dire la partie vraiment sunnite du pays, la ville la plus ancienne, c'est une ville d'origine grecque qui a été une ville extrêmement importante pendant le califat fatimide, puis très importante pendant les croisades, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi l'une des raisons un peu subliminales de l'attachement de la France au Liban. C'est moi-même qui suis gascon, si vous voulez, Tripoli, il y a une forteresse gasconne qui a été tenue par les comtes de Toulouse pendant 2 siècles, c'est important quoi. Et on finit là parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est mon intuition, c'est vraiment le maillon le plus fragile de la nation libanaise.
Si ça doit exploser, c'est à Tripoli.
Je ne vais pas faire Madame Irma, ça peut péter à n'importe quel moment à la frontière israélienne. Ça a failli exploser dans Beyrouth. Il y a quand même eu plusieurs morts pendant une manif qui a dégénéré en octobre à la frontière entre les quartiers chrétiens et chiites. Donc, bon, le pays est vraiment une poudrière à l'heure actuelle, accentué évidemment par la misère. Mais quand on voit la misère absolue et l'abandon complet et la frustration et la colère et la rancœur des classes pauvres du Nord, parce que le Nord est plus pauvre et plus abandonné et plus exclu du jeu politique, on se dit que là, c'est vraiment, vraiment très dangereux.
Alfred de Montesquieu, son film « Liban au cœur du chaos » sur France 5, demain soir. Nous lisons maintenant la presse de la semaine au Moyen-Orient. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Correspondant au Caire. Et bonjour Michel Paul.
Bonjour.
Correspondant à Jérusalem. Michel, le sujet que vous avez retenu cette semaine, la visite du ministre israélien de la Défense au Maroc et les accords qui ont été signés.
Benny Gantz a conquis le Maroc, un nouveau Proche-Orient, souligne le quotidien Yediot Aharonot, sans vraiment tenir compte de la géographie de la région. Eric, les médias mettent l'accent sur cette visite qualifiée d'historique du ministre israélien de la Défense et sur le pacte stratégique qui a été signé avec le royaume chérifien. Marive le souligne, des manœuvres militaires communes sont prévues entre les armées des deux pays. Mais le journaliste Yossi Melman, un spécialiste des affaires de renseignement, propose de remettre en proportion ces informations. Cela fait plus de 60 ans qu'Israël entretient des relations privilégiées avec Rabat dans le domaine sécuritaire. La différence, affirme-t-il, c'est que désormais cela se fait à découvert. Et puis en marge de ce réchauffement, les frictions entre Israël et les États-Unis sur le dossier nucléaire iranien. Un éventuel accord n'engagera pas Israël, affirme le Premier ministre Bennett. Pour Israël Hayom, le principal journal de l'opposition de droite en Israël, le président Biden a provoqué l'effritement de la coalition anti-Iran.
Pour vos journaux, Alexandre, le sujet principal, c'est la montée de la tension en Libye, qualifiée de dangereuse.
Oui, et pour plusieurs journalistes, on en veut pour preuve la démission de l'envoyé spécial pour la Libye, Yann Kubich, à moins d'un mois des élections législatives et présidentielles prévues par l'ONU. Alors, des élections devenues totalement irréalistes selon de nombreux analystes. Ils voient dans le rejet de la candidature de Saif al-Islam Qaddafi comme une mine qui va faire sauter le processus électoral. Déjà, l'influente tribu des Qazazefa, dont est issu Kadhafi, menace de soulèvement si Saif al-Islam n'est pas candidat, indiquent les journaux. Ça, c'est pour le centre de la Libye à l'est, c'est un éventuel rejet de la candidature du maréchal Khalifa Haftar qui est perçu comme une menace annulant de facto les élections. Les journaux rappellent qu'une condition principale de l'accord interlibyen n'est pas remplie, le départ des forces étrangères, sans parler du désarmement des milices libyennes. Des éditorialistes concluent que, dans le monde arabe, on est pro-démocratique pour la forme, mais pas sur le fond. Les journalistes en veulent pour preuve l'exemple de l'Irak, où les perdants ne veulent pas reconnaître leur défaite, et le Liban, incapable de tenir des élections.
Et puis l'accord entre civils et militaires au Soudan est-il viable? C'est ce que se demandent vos journaux, Alexandre.
Oui, tout à fait. Il s'agit de l'accord entre le chef de la junte, Abdel Fattah al-Burhan, et le premier ministre civil, Abdallah Hamdouk, pour reprendre les discussions afin de former une coalition de pouvoir intérimaire et de préparer la tenue d'élections. Mais pour les journaux, les contestations de cet accord se multiplient du côté des formations politiques et des syndicats qui ont mené les manifestations et les grèves. Côté militaire aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Les analystes craignent donc un effondrement de l'accord qui plongerait le Soudan progressivement dans un chaos politique, économique et surtout sécuritaire. Il conclut qu'au-delà des déclarations de bons sentiments, aucun des pays arabes n'est disposé actuellement à prendre le risque de se mouiller vraiment au Soudan.
Michel, en bref, les autres sujets qui font l'actualité en Israël cette semaine.
C'est le début de la 5e vague de Covid, soulignent les médias. Israël recommence à se refermer sur lui-même, notamment pour se protéger d'un nouveau variant en provenance d'Afrique du Sud. Autre sujet, la municipalité de Jérusalem avait donné son feu vert pour la construction d'un nouveau quartier en lieu et place de l'ancien aéroport d'Atarot, dans la partie orientale de la ville. Renversement de vapeur, le gouvernement israélien s'engage face à l'administration américaine. Le plan est gelé pour au moins 13 mois. Et puis aussi une sombre affaire de jeunes israéliennes qui effectuaient leur service militaire dans une prison de Galilée ont été livrés en prostitution à des détenus de sécurité palestiniens. Et cela s'est passé précisément dans le pénitencier d'où se sont évadés le mois dernier 6 détenus qui ont été rattrapés peu après.
Et votre image, Michel ?
Eh bien, c'est la photo de Izzeldin Abouelish, ce médecin de Gaza aux idées pacifistes. 3 de ses filles et une de ses nièces ont été tuées par un obus tiré par un tank israélien. C'était en 2009. Depuis, il a tenté d'obtenir des compensations. Cette semaine, la plus haute instance juridique israélienne, la Cour suprême, l'a finalement débouté. Cette décision, dit-il, c'est comme si on nous tuait à nouveau. Le médecin vit maintenant au Canada.
Merci Michel et merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous suivrons la caméra de la documentariste Simone Bitton sur les traces des saints juifs au Maroc. Son film Ziyara sera en salle mercredi prochain 1er décembre en France et au Maroc. À demain donc, dans un instant, le journal.
Je ne sais plus rien. Une douce musique revient. Elle arrive de très loin. Ah, ma chaloupe, à ta côté, sous le ciel cabine.
Orient Hebdo sur RFI.